moi, je suis assez fier de moi. Je me suis trouvé très bien hier soir. J'ai dit ce qu'il fallait dire. J'ai rassuré les gens. J'ai rassuré les investisseurs. J'ai fait le job, quoi. Il n'y a rien de plus à dire. J'ai trouvé que les journalistes, ils étaient gentils aussi. Ça va. C'est des bons journalistes. Ils écoutent tout ce que je leur dis. Ils m'interrompent pas. Enfin, j'ai trouvé ça très bien. Moi, je pense que ça va bien se passer. Je me permets de vous appeler, monsieur Mermet, parce que je sais que tous les auditeurs, ils peuvent vous appeler, même ceux qui sont pas d'accord avec vous. Moi, je me suis trouvé très bien. Comme je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui le disent, eh ben, je vais le dire moi. Moi, j'ai aimé ce que j'ai fait. Et je compte que je vais continuer jusqu'à la fin de mon mandat. Peut-être même le suivant. Faut que je vous laisse. Je vais chercher mes tickets restaurant. J'ai un déjeuner avec Omar Bongo ce midi. Au revoir.
Salut Daniel, salut les AMG, c'est Judith de Mulhouse. Un petit résumé du discours de notre président. Bla 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 bla. Ah, j'oubliais. La cerise sur le gâteau. La suppression de la taxe professionnelle. Encore un joli cadeau au patron des grandes entreprises. Et qui va payer le manque à gagner des collectivités territoriales? Eh ben, c'est nous. Comme toujours. Alors, je voulais quand même rappeler à notre président qu'on paye déjà chèrement le désengagement de l'État dans les collectivités territoriales. Qu'à cela ne tienne, la facture sera rallongée. Allez, courage à tous. Salut.
Bonjour Daniel Mermet et toute l'équipe des joyeux animateurs modestes et géniaux. Eh bien, moi, suite à l'émission d'hier, là, j'ai bien regardé et j'ai bien écouté, mais j'ai pas entendu à aucun moment que Nicolas Sarkozy allait réduire le train de vie de l'État, le train de vie de l'Élysée en particulier, qui l'a bien augmenté, le train de vie des sénateurs, le train de vie des députés, toutes ces hautes autorités, là, qui vivent très très bien sur le dos de la France. Donc, ça, j'en ai pas entendu parler. Par contre, s'il supprime la taxe professionnelle, c'est évidemment pour pouvoir taxer les villes et les régions qui sont détenues par la gauche. Eh ben, courage à tous, hein, ciao.
Salut Daniel, donc c'est Odile du Calvados. Je suis en train de regarder Nicolas Sarkozy, je suis complètement atterrée. Il vient de dire qu'il n'avait jamais menti, qu'il n'était pas un menteur et que c'est pas maintenant qu'il commencerait. Et pourtant, pendant sa campagne électorale, il avait bien annoncé 25% d'augmentation des retraites. Moi, jusqu'à présent, je n'ai vu que 0,8% d'augmentation sur ma retraite. Et encore, j'ai reçu une lettre récemment me disant que j'avais un trop perçu. Et je touche 456 euros par mois. Voilà. En plus, il n'envisage pas de baisser les salaires des gros dirigeants. S'ils travaillent bien, c'est normal qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Salut.
Nauséabond. Vous avez remarqué ce mot qui tourne partout, qu'on entend partout. Nauséabond, il est dans toutes les bouches ce mot depuis quelques temps, quelques semaines peut-être. C'est étrange, hein? Et là, on l'emploie beaucoup, beaucoup. Nauséabond, c'est nauséabond. C'est au sujet du livre de Pierre Péan. Vous avez remarqué? C'est associé. Alors, nauséabond, on dit pas antisémite, on dit pas... Non, on suggère, c'est encore plus flou, c'est vague, mais c'est nauséabond. Alors, on a voulu préciser un peu les choses, revenir sur cette histoire, non pas forcément sur le bouquin de Pierre Péan qu'on a évoqué hier, mais sur celui qui en fait l'objet, c'est-à-dire Bernard K. Et au-delà même de Bernard K., sur une époque et sur une façon de faire de la politique et sur une forme de politique et sur un genre de politique, la politique des bons sentiments. Il se pourrait bien, et ce serait en tout cas souhaitable, que cette histoire marque le naufrage et la faillite de la politique des bons sentiments. En disant ça, je me demande si c'est pas, je ne prends pas mes rêves pour des réalités. Mais j'aimerais bien qu'on prenne conscience de ça. En tout cas, c'est ce qu'on s'était efforcé de faire lors du procès, vous vous souvenez bien sûr, à Bernard K, dans le cadre du tribunal des condamnés d'avance, où nous avions tenté de réhabiliter le susdit Bernard K. Je vous propose aujourd'hui de réécouter des extraits de ces plaidoiries, des témoignages au cours de ce tribunal, de ces audiences, qui éclairent après et dans la situation où nous sommes, après la publication de ce livre, et qui éclairent d'une autre façon ce qui se passe et ce qui se dit et ce qui préoccupe aujourd'hui les uns et les autres, tout ne se réduisant pas à deux camps. Péan contre Kouchner, Kouchner contre Péan. C'est plus vaste que ça, heureusement, et plus important que ça, heureusement. Il se pourrait bien que l'image de Bernard K soit l'image d'une époque, celle de l'époque de la politique des bons sentiments, qui aurait peut-être, sera peut-être un peu vu comme quelque chose qui a accompagné une époque historique, celle d'une époque, une étape du capitalisme qu'on appellera l'époque du néolibéralisme. Voilà les quelques idées que je vous propose avant de rentrer dans l'enceinte de ce tribunal. C'était au théâtre de Jazet à Paris. Auparavant, deux petites choses. L'une, au sujet des projections de Chomsky, je serai ce soir à Sevran, dans le 9-3, où le film sera projeté à 20h, et à l'issue de la projection, j'animerai le débat. Demain, à Nice, il y a une séance à 17h, au cinéma Mercury, et puis dimanche, ce sera à Montauroux, dans le Var, chez Éric de Fayence, notre ami Éric de Fayence, qui, là aussi, organise une projection, à l'issue de laquelle nous bavarderons autour du film et nous discuterons aussi âprement. Voilà, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille au 01 56 40 37 37 et ensuite au tribunal.
La nuit sécuritaire s'installe en psychiatrie. Le 2 décembre 2008, dans une enceinte psychiatrique hospitalière, se saisissant d'un crime pourtant très rare, commis par un patient, le président Sarkozy a annoncé un plan pour la psychiatrie aux conséquences dévastatrices. Dans ce discours sécuritaire, les fondements même de la psychiatrie ont été attaqués avec la plus grande brutalité. Dans un premier temps, notre collectif, l'Appel des 39, constitué de soignants et de citoyens, a été d'opposer un refus en élaborant un texte, la nuit sécuritaire. En un mois, celui-ci a recueilli plus de 19 000 signatures. Nous organisons un meeting le 7 février, donc samedi, à la Parole errante à la Maison de l'Arbre, 9 rue François Deberg à Montreuil, au métro Croix de Chavaux, où nous débattrons de toutes ces questions-là. Nous vous invitons tous, chers auditeurs modestes et géniaux, à venir nous rejoindre pour que cette nuit sécuritaire ne soit pas la nuit de la psychiatrie. À bientôt, merci.
Bonjour à tous, c'est Françoise, c'est le repère du 20e qui va regagner ses pénates dans le tout beau nouveau lieu dit au 6 rue Sorbier, quand même il paraît qu'il y a une cheminée, on va pouvoir se faire des repères au coin du feu si ça se trouve, ça va pas aller du tout, on va devenir des plans-plans. Alors, modeste ou pas, géniaux ou pas, on vous attend au lieu dit. Donc 6 rue Sorbier, ce samedi 7 février, de 17h à 19h, et venez-y bien nombreux. Salut.
Voilà, c'est Daniel Mermet, c'est la Bastille qui suit, toute la bande au tribunal des condamnés d'avance. Flight number two, arriving
from L'audience est ouverte. Nous allons faire entrer l'accusé. L'accusé est-il présent, monsieur l'avocat?
Bernard Kouchner est, comme à son habitude, sur le terrain. Il délaisse ce soir l'action médiatique qu'il tient en piètre estime et donc ne sera pas présent.
Très bien. Bernard Kouchner est poursuivi notamment pour détournement de l'humanitaire et de l'abbé Pierre avec préméditation, opportunisme et retournement de veste avec précipitation, bidonnage lucratif et trafic d'influence médiatique en réunion, et d'autres motifs dont l'énumération nous prendrait une trop grande partie de la soirée. Aussi a-t-il déclaré, Bernard Kouchner est poursuivi par des revanchards, des biafrais, des bromanes, des lâches, des frustrés, des médecins sans frontières, bref, des tocards. Avant les témoignages, je crois qu'il serait bon d'avoir une idée du profil psychiatrique, psychologique de l'accusé. Aussi, nous faisons appel à monsieur, au docteur Frédéric Pagès, qui est expert psychiatre, s'il veut bien venir jusqu'à nous, franchir les marches branlantes jusqu'au micro. Levez la main droite, promettez de dire la vérité et dites « je le jure ».
Je suis désolé, je suis expert près des tribunaux et je n'ai pas juré, je suis assermenté déjà, monsieur le Président.
Très bien, on vous écoute, monsieur Pagès Frédéric.
Alors, monsieur le Président, vous m'avez confié la mission d'examiner monsieur Kouchner, né le 1er novembre 1939 en Avignon, et vous me demandez de répondre aux questions suivantes. Le sujet présente-t-il un état dangereux? Est-il accessible à une sanction pénale? Est-il curable ou réadaptable? Alors j'ai été conduit à rencontrer M. Kouchner à plusieurs reprises. Le sujet était dans un état de grande confusion mentale, très agité. Pour le calmer, je lui ai expliqué qu'il n'était pas filmé, ce qui a redoublé son agitation quand il a su qu'il n'y avait pas de caméra pour lui. Nous avons procédé ensuite à l'anamnèse. Il nous a raconté son enfance. Il nous a confié que tout petit, déjà, il se trouvait trop petit. Et il a évoqué un souvenir particulièrement douloureux, je le cite, « à cause de ma petite taille, je me suis fait virer d'un camp de nudistes sous prétexte que je mettais mon nez dans les affaires des autres. » Plus tard, j'ai appelé ça le droit d'ingérence. Il ajoute qu'il a été nommé aujourd'hui ministre des Affaires étrangères par la grâce d'un président qui est aussi petit que lui. Et que c'est une source d'humiliation permanente. Et il répète de façon obsessionnelle, c'est pas facile de vivre avec une femme plus riche que vous. Alors là, il fait une véritable fixation sur les revenus de son épouse, Christine Ockrent. Il prétend qu'elle gagne largement plus que lui à la tête de France 24. Je n'ai que mon salaire de ministre. Elle gagne autant qu'un grand patron. Je n'étais pas obsédé par l'argent pendant toute la première partie de ma vie. Aujourd'hui, je suis célèbre, mais pas assez riche. Aujourd'hui, il faut être friqué. Je suis victime de cette époque. Et il pleure à chaudes larmes. Alors sa confusion mentale s'approfondit. Il confond souvent humanitaire et militaire. Par exemple, pendant la crise du nucléaire iranien, il a demandé de se préparer au pire, c'est-à-dire à la guerre. Je lui ai fait remarquer que pour un médecin, un ex-médecin du monde, c'était bizarre. Il m'a dit « Oui, je suis militaire sans frontières ». Quand on lui parle de Villa Corse, il répond « Union pour la Méditerranée », ce qui n'a aucun rapport. Et il confond souvent « Boat people » et « people ». Alors en conclusion, monsieur le Président, je dirais que nous avons affaire à une personnalité de type obsessionnel, qui ne formule aucun sentiment de culpabilité et que nous ne considérons pas comme accessible à une sanction pénale. Faut-il prévoir une cure psychanalytique? Bernard Kouchner répond qu'il est d'accord à condition que son analyse soit filmée et diffusée en direct à une heure de grande écoute sur un divan dessiné par Philippe Stark. Et pour résumer, je dirais, dans un jargon un peu technique, veuillez m'en excuser, que visiblement, mon client est complètement à l'ouest et fou comme un lapin. Merci, monsieur le Président.
À l'instant, s'il vous plaît, monsieur le procureur, des questions?
Oui, j'ai une question. Avez-vous évoqué avec le prévenu son absence notoire au dîner du Fouquet's?
Alors, en fait, il n'était pas absent. Il a essayé de se glisser par plusieurs issues, à plat ventre, à genoux, etc. Et malheureusement, il a été écrasé par un mouvement de foule. D'où une frustration renforcée.
Il a eu plus de chance avec Ingrid Betancourt. Il a réussi quand même à être dans le champ de la caméra lors de l'arrivée de l'héroïne colombienne.
Oui, mais il s'est exercé auparavant, monsieur le Président.
Merci beaucoup, Frédéric Pagès, expert. À Alors, Bernard Kouchner est connu du monde entier, mais le connaît-on bien dans certaines régions de France? Eh bien, pour ça, nous avons demandé à un autre témoin, Monsieur Ruffin, François Ruffin, de bien vouloir venir témoigner. Bernard Kouchner et la Picardie. François Ruffin, je vais vous demander de lever la main droite, de promettre de dire la vérité et de dire « je le jure ».
Je ne lève que la main gauche. Je promets de dire la vérité.
On vous écoute, monsieur Ruffin.
Donc, vous vous demandez quel est le rapport entre Bernard Kouchner et la Picardie.
La Cour se demande en effet, monsieur Ruffin.
Ben voilà, j'ai un copain à Amiens, forcément, quoi. Il a fait une maîtrise de philosophie, la relecture du théâtre sartrien d'après-guerre à la lumière de l'existentialisme est un humanisme de Sartre. Hein. Donc, bon, il n'a pas trouvé de poste en philo, donc finalement... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait responsable logistique dans une PME de la Somme, hein, donc dans mon coin, qui conditionne des parfums L'Oréal. Il m'a expliqué un peu en quoi consistait son travail de responsable logistique, donc je le cite, quoi. Hein. La veille, on m'annonçait l'arrivée d'une cargaison, donc d'un jour sur l'autre, je dois trouver des caristes en intérim. Les contrats duraient entre 2 et 15 jours, parfois juste une journée. Donc on a fait le calcul avec Franck, quoi. Il y avait 16 CDI dans la boîte, et les effectifs montaient jusqu'à 120 employés, soit 86% d'intérimaires, pour quelque chose qui n'a rien d'une activité saisonnière. Donc lui, il m'expliquait encore, l'intérimaire ne voit qu'une chose, est-ce que ce soir, à 16h57, on va me demander de revenir demain? 1000 euros le mois, c'est un gros salaire, donc ils te racontent leur malheur. Quand t'es chef de service, faut être un loup. Faut prendre les gens et décider si demain, ils auront à bouffer ou non. Bon, Franck a finalement démissionné. Alors là, vous demandez, mais quel est le rapport?
Voilà.
En fait,
que j'avais demandé la Cour.
J'avais un peu prévu la question. Cette PME de Picardie, donc, était un sous-traitant pour L'Oréal, hein, qui sous-traite à peu près les trois quarts de sa production. Je suis tombé sur une dépêche AFP qui datait de l'époque de ma rencontre avec Franck, où on annonçait « L'Oréal connaît une croissance du bénéfice à deux chiffres pour la 19e année consécutive ». Et L'Oréal, c'est la propriété de Liliane Bettencourt. C'est la troisième fortune de France, mais c'est la femme la plus riche du monde, cette Liliane Bettencourt, qui est donc une héritière. Et maintenant, la question que vous posez, c'est quel est le rapport entre Liliane Bettencourt et Bernard Kouchner?
Oui, c'est la question que la Cour se pose.
Eh bien, à l'époque donc où je rencontre Franck, je tombe sur un autre morceau dans la presse, c'est un extrait de Challenge. On découvre que Bernard Kouchner, qui était à l'époque ministre de la Santé, remet la Légion d'honneur à Liliane Bettencourt et lui murmure « Vous auriez pu vous contenter d'être fortunée ou d'être belle et vous aviez les deux qualités. »
Je trouve que
moi, je suis là cité en tant que témoin de la défense, hein, je vous rappelle. Je trouve que c'est un acte courageux de sa part. Parce que un ministre de gauche, pour avoir tendance, vous savez, quand on est socialiste, à se vautrer dans les archaïsmes, à aller remettre des légions d'honneur aux travailleurs intérimaires de ce sous-traitant ou à Franck directement. Et là, c'est un signe d'ouverture quand même, c'est un signe de... C'en est fini avec les archaïsmes à gauche. C'est une vraie rénovation, là, en pratique, que cette remise par un ministre socialiste de la Santé, de la Légion d'honneur, à la femme la plus riche du monde. Voilà les faits que je voulais apporter à la Cour. Est-ce que je peux me permettre de quelques annotations complémentaires?
Allez-y, monsieur Ruffin.
Ça me paraît pas très juste de faire comparaître monsieur Kouchner aujourd'hui tout seul. Il y en a d'autres, des ministres d'ouverture, hein, dans le gouvernement de monsieur Sarkozy. Et je voulais signaler la coïncidence, presque tous sont passés par une étape humanitaire dans leur carrière. Alors, c'est le cas, c'est bien connu avec monsieur Martin Hirsch. Monsieur Martin Hirsch, dont je me souviens d'une interview sur France Inter au moment des JO 2012, où il était à côté de Lagardère, Vivendi, Veolia, et puis tout ça pour réclamer que les JO 2012 se déroulent à Paris. Et il expliquait que si ça se déroulait à Paris, les compagnons d'Emmaüs iraient ramasser les ordures, qu'ensuite ça serait, ils en feraient des belles choses, que ça serait envoyé en Afrique, et que c'était finalement une forme de développement durable, vous voyez? Et que ça prouverait l'utilité des pauvres. Donc je pense que ça, c'est un peu l'annonce de ce que sera le revenu de solidarité active, peut-être.
C'est le jour où il faut parler de ça, monsieur Ruffin. Très bien.
Ensuite, Éric Besson. Alors, on l'ignore trop, mais Éric Besson, donc vous savez, qui était conseiller de Ségolène Royal pendant la campagne et qui a rapidement, plus rapidement encore, que M. Kouchner retournait sa veste. M. Besson, lui aussi, s'est adonné à l'humanitaire puisqu'il était président de la Fondation Vivendi, une association philanthropique qui avait pour but d'aider les chômeurs de longue durée et les exclus des banlieues à se réinsérer. Alors, cet élu socialiste était payé 140 000 euros, je l'ai vérifié auprès de lui, 140 000 euros à l'année, soit 10 000 euros par mois pour ça. Donc, effectivement, ça facilitait la réinsertion d'un exclu. Bon, ensuite, dernier point, toujours pour la défense de M. Kouchner. Je vous trouve opportuniste. Oh, si. Alors, sans doute que vous allez accuser M. Kouchner, je vous ai déjà entendu, d'opportunisme. Mais moi aussi, je trouve que c'est un peu facile, a posteriori, comme condamnation. Voilà, et ça y est, on est prêt à le condamner parce qu'il est passé dans le camp Sarkozy, donc on peut faire son procès. Ça me paraît un peu facile, parce que si on devait faire le procès de tous les socialistes qui n'ont rien de socialiste, bon, je veux dire, c'est une... Je pense que ça dépasse la compétence de votre tribunal et ça risquerait d'embouteiller les juridictions françaises pour assez longtemps.
La défense.
Juste une précision, on aura compris que votre collaborateur a été cité par la défense, mais c'est bien entendu la défense de l'accusation qu'il soutenait ici.
Merci beaucoup, Monsieur Ruffin. Une question. Que restera-t-il de Bernard Kouchner et de son œuvre dans les livres d'histoire de nos arrière-petits-enfants? Un sac de riz, un demi bien frais, peut-être. Mais surtout, il restera le droit d'ingérence. Après avoir apporté au monde les droits de l'homme, la France, avec Bernard Kouchner, a apporté à l'humanité tout entière le droit d'ingérence. Pour en parler et pour témoigner, nous demandons au professeur Jean Bricmont de bien vouloir rejoindre le micro. Le professeur Jean Bricmont enseigne la physique théorique en Belgique et il est l'auteur de « Impérialisme humanitaire » aux éditions Aden. Professeur, vous avez entendu la question qui angoisse la Cour ainsi que l'assistance. Que restera-t-il de l'œuvre de Bernard Kouchner en matière de droit d'ingérence? Nous vous écoutons, mais auparavant, je vous demanderai de bien vouloir jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ».
Je le jure.
Nous vous écoutons, professeur.
Merci. Le principal procès que l'on puisse faire de Bernard Kouchner est d'avoir été l'architecte intellectuel du droit d'ingérence. C'est-à-dire de l'idée que la France, les États-Unis ou l'OTAN ont le droit d'intervenir militairement en violation du droit international dans le reste du monde pour y faire respecter la démocratie ou les droits de l'homme. Cette doctrine a été appliquée en Bosnie et au Kosovo, en partie en Afghanistan et en Irak, et elle sous-tend en grande partie l'agitation en France à propos du Tibet et de la Géorgie, du Hamas et du Hezbollah, du Soudan et du Zimbabwe, de l'Iran, ainsi que de Cuba et du Venezuela. Il y a deux types de critiques que l'on peut faire de cette idéologie. L'une, c'est celle de la sincérité ou de la cohérence, le discours d'ingérence humanitaire coexistant souvent avec un soutien à des dictatures amies. Ce sujet ayant été évoqué par de précédents témoins, je propose de me concentrer sur la question des conséquences de l'idéologie de l'ingérence. Tout d'abord, il faut avoir les idées claires sur ce qu'on entend par le droit d'ingérence. On ne suggère pas que le Brésil a le droit d'intervenir en Irak pour y instaurer une démocratie et accessoirement s'emparer de ses ressources pétrolières. On ne suggère pas non plus que le Bangladesh a le droit d'intervenir aux États-Unis pour les forcer à réduire leurs émissions de CO2 qui risquent de nuire gravement à l'avenir au Bangladesh. Non, ce que ce droit signifie, c'est le droit unilatéral des pays puissants d'intervenir dans les affaires intérieures des pays faibles. La question qui se pose est : la France est-elle un pays puissant ? Je ne veux vexer personne. Je sais... Je sais, et mon accent le trahit, que je ne suis que belge. Néanmoins, qu'en est-il alors de cette politique d'ingérence américaine, chère à M. Kouchner? Qu'en est-il de ses conséquences pour ce qu'on appelle aux États-Unis le reste du monde? Il y a ce qu'on pourrait appeler tuer l'espoir. Tuer l'espoir des pauvres, des changements pacifiques et réformistes dans le tiers-monde, des politiques d'éducation, de santé publique ou de réformes agraires, qui ont été représentées par des gens très différents et à des époques différentes, comme Lumumba, les Sandinistes, Allende, Mossadegh, Arbenz, Mandela ou Chavez, et que les États-Unis ont systématiquement renversé, saboté ou diabolisé. L'autre chose que l'idéologie de l'ingérence de M. Kouchner oublie, c'est que, vu d'un point de vue global, et pas seulement européen, la principale transformation sociale du XXe siècle, le principal mouvement du XXe siècle, n'a pas été l'histoire du communisme, ni la défaite du fascisme, mais la décolonisation. La décolonisation a permis à des centaines de millions de gens en Asie et en Afrique d'échapper à une forme particulièrement barbare de domination raciste. Mais elle a aussi inversé de façon définitive le mouvement de domination occidentale sur le reste du monde, commencé à la fin du XVIe siècle. Cette période est terminée. Le tiers-monde, qu'on le veuille ou non, est debout, avec ses révolutions et ses tragédies, avec ses dirigeants et ses opposants, avec ses immenses misères, mais aussi avec ses immenses progrès. Ce n'est pas l'Occident qui va résoudre leurs problèmes par la guerre. Nous ferions mieux d'écouter le mouvement des pays non alignés, qui regroupe la majorité de l'humanité, et qui s'est réuni à Kuala Lumpur, en Malaisie, quelques semaines avant le début de l'invasion de l'Irak, en 2003, pour réitérer, je cite, « le rejet par le mouvement des pays non alignés du soi-disant droit d'intervention humanitaire, qui n'a aucune base dans la Charte des Nations Unies ou dans le droit international ». M. Kouchner aura quand même eu le mérite de faire en sorte que son concept préféré aura attiré l'attention de ce vaste mouvement des pays non alignés, même si c'est pour le rejeter. Loin de dominer le monde, les États-Unis en dépendent. Ils en dépendent pour leurs matières premières, pour les produits manufacturés faits à bon marché, mais aussi pour leur cerveau et aujourd'hui pour le sauvetage de leurs institutions financières. La question qui se pose aujourd'hui n'est pas de savoir si les États-Unis vont continuer à dominer le monde, mais comment ils vont accepter la perte inéluctable de leur hégémonie, de façon pacifique ou par une fuite en avant et une guerre généralisée. Et pour nous, Européens, la question qui se pose est de savoir si nous voulons monter dans le bateau en perdition des États-Unis, comme nous y invitent M. Kouchner et Sarkozy, ou bien nous joindre au reste du genre humain et construire un monde post-impérialiste qui, à mon avis, est la tâche principale politique de notre temps. Et pour ce qui est de M. Kouchner, s'il y avait une justice en ce bas monde, il serait condamné à être réincarné comme Serbe du Kosovo, comme Sunnite irakien, comme paysan afghan, ou comme Palestinien dans la bande de Gaza.
Est-ce que monsieur le procureur a des questions à poser aux témoins?
Le procureur ne veut pas s'aventurer à poser des questions aux témoins, mais la défense, oui, la défense a des questions.
Bien sûr, monsieur le président.
Ah.
D'abord, je dois dire aux témoins que, comme tout le monde ici, j'ai été touché par son exposé. C'était émouvant. D'ailleurs, j'en ai entendu un enfant pleurer dans la salle. C'est un signe certain de votre talent oratoire. Vous avez dit quelque chose qui m'a un petit peu surpris. Alors je crois, si je ne me trompe pas, que vous êtes professeur, mais vous êtes professeur de physique. Vous n'êtes pas professeur de droit.
Non.
D'accord. Alors je comprends mieux parce que vous nous avez dit que le droit d'ingérence n'avait aucune base dans le droit international.
J'ai cité le mouvement des pays non alignés.
J'étais un petit peu...
D'intervention unilatérale, évidemment.
Alors, il y a quand même deux résolutions que vous connaissez certainement, deux résolutions des Nations Unies, la résolution 43-131 et 45-100, je suis désolé d'être un petit peu précis, mais qui prévoit quand même ce droit d'ingérence et qui crée le corridor humanitaire. Alors, ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité, et il me semble qu'elles prévoient ce droit d'ingérence dans le cadre, évidemment, et sous le contrôle des Nations Unies. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que pour vous le droit d'ingérence est à bannir en toute occasion ou est-ce qu'un droit d'ingérence qui serait organisé dans le cadre des Nations Unies et dans un cadre certainement des Nations Unies rénové, où par exemple il n'y aurait pas de droit de veto des États-Unis, donc un cadre prospectif, serait à même de constituer une avancée, ou est-ce que dans tous les cas, c'est finalement pour vous un outil de l'impérialisme ?
Merci. D'abord, j'ai cité le mouvement des non-alignés. Je n'ai pas voulu citer la citation complète, qui est un peu plus longue, d'un des articles de leur résolution. Ils l'ont fait le 15 février 2003. La guerre commençait le 24 mars 2003. Donc c'était quelques semaines avant, c'était clairement dans ce contexte-là, et c'était la question, évidemment, du droit d'intervention dit humanitaire, mais unilatéral, par les grandes puissances. C'est la seule chose que j'ai voulu discuter. Toutes les résolutions et toute la base des Nations Unies, tout le droit international sanctionné par les Nations Unies, je ne le critique pas par principe. Je critique seulement le retour, à mon avis, des décennies en arrière par rapport à la constitution du droit international à la fin de la guerre, qui est justement l'idée que les Nations Unies ont été fondées pour prévenir et épargner à l'humanité le fléau de la guerre et ont mis comme principe la non-intervention unilatérale dans les affaires intérieures d'un autre pays. Ça, c'est le principe de base, si vous voulez, des Nations Unies. Il ne faut pas oublier qu'à Nuremberg, un des principaux crimes dont étaient accusés les nazis, c'est le crime contre la paix, c'est-à-dire le fait de déclencher des guerres de façon unilatérale. Au nom des Nations Unies, la question des Nations Unies, comme vous dites, c'est le Conseil de sécurité, le droit de veto, les deux poids, deux mesures. Quand on regarde le nombre de condamnations en ce qui concerne Israël pour lequel les États-Unis mettent leur veto, il y a deux poids, deux mesures qui font que le système ne fonctionne pas. Mais en principe, je ne suis pas contre ce système. Au contraire, je suis pour. Mais quand on voit le résultat des courses, quand on voit le désastre qui est en Irak, qui n'est pas réparé, qui n'est pas terminé, qui va continuer, etc., quand on voit les problèmes qu'on a créés en Palestine, quand on voit les problèmes qu'on crée maintenant en Afghanistan, qu'on a vu les problèmes qu'on a créés maintenant en Somalie, il faut se poser des questions sur cette ingérence. Il me semble que si on repensait, et ça c'est l'important, si on repensait notre rapport au reste du monde, si on coopérait effectivement avec les blocs qui existent en dehors de l'Europe, si on essayait de ne pas toujours les provoquer, de ne pas toujours les diaboliser, de ne pas toujours les contrôler et les dominer, alors je pense qu'on pourrait avancer vers des solutions plus pacifiques. Mais ça, il faut tenter pour le faire. Non seulement l'ingérence occidentale est criminelle, mais elle est aussi futile.
Merci beaucoup, Monsieur Jean Bricmont. Il faut rappeler que Monsieur Kouchner a approuvé l'intervention militaire américaine en Irak en 2003. Et rappelons à l'occasion qu'entre 2003 et 2008, sur 5 années, cette guerre a fait plus de victimes que dans les 5 années précédentes au temps de la dictature de Saddam Hussein. Un des témoins que nous avons eu à entendre, qui est un collaborateur de l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur, nous disait que Bernard Kouchner sait utiliser les médias, leur fournir les images dont ils ont besoin. L'important, c'est qu'on parle de lui. À Libération, au Monde ou au Nouvel Obs, ajoutait ce journaliste, qui est un grand reporter, dans les radios et les télés, on vous prévient, Bernard est un ami du journal. Ce qui veut dire, bien évidemment, que le papier que vous préparez a assez peu de chances de trouver de la place dans le dit journal. Pour parler des relations entre Bernard Kouchner et les médias, nous allons faire appel à un connaisseur, qui est Daniel Schneiderman, qui est lui-même journaliste, et qui anime, comme vous le savez, le site ASSI, c'est-à-dire Arrêt sur Image. Monsieur Daniel Schneiderman, je vais vous demander de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure » et de vous engager à dire la vérité, rien que la vérité.
Toute la vérité, monsieur le
Toute
Président.
Toute la vérité.
Je le jure.
Nous vous écoutons.
Monsieur le Président, quand j'ai reçu la convocation à votre tribunal des causes condamnées d'avance, c'est bien la dénomination du tribunal.
C'est les grands condamnés d'avance.
Les grands condamnés d'avance, excusez-moi, monsieur le Président. Je n'ai pas hésité une seconde, d'abord parce que par les temps qui courent, il vaut mieux ne pas trop hésiter à déférer aux convocations de justice quand on est journaliste. Il y a là une mesure de prudence élémentaire, enfin, à laquelle je me suis toujours conformé et dont je me suis bien trouvé. Et ensuite...
De couardise commune à nos métiers.
Absolument, monsieur le Président. Je ne saurais vous contredire dans cette audience, surtout sur ce point. Et je n'ai pas hésité une seconde non plus, puisque depuis 1992, C'est-à-dire depuis que mon métier de journaliste consiste à regarder la télévision, Monsieur le Président, vous le savez, et j'imagine que c'est pour cette raison que vous m'avez invité, je vis avec Bernard Kouchner. Il fait partie de mon paysage du matin. Au-dessus du ronronnement de la cafetière, un matin sur deux, j'entends Bernard Kouchner à une des stations périphériques ou nationales. Je vis avec Bernard Kouchner le soir, un soir sur deux, un soir sur trois. Alors, moi, maintenant, Monsieur le Président, nous allons y revenir, mais quand j'ai commencé mon métier de critique de télévision au Monde, un soir sur deux ou un soir sur trois, ou au minimum, un soir par semaine, Bernard Kouchner était posé sur le plateau du journal de 20h, de PPDA, souvent de Claire Chazal d'ailleurs, parce que Bernard Kouchner avait une prédilection pour le week-end. Pour des raisons, Monsieur le Président, je serais bien en peine d'expliquer, mais enfin c'est comme ça. Donc aucune raison de refuser votre invitation, et pourtant Monsieur le Président, je dois vous l'avouer ce soir, je ne me suis jamais senti à la hauteur de cet homme-là. Jamais. Depuis que je vis avec Bernard Kouchner, il me file un sacré complexe d'infériorité à chaque fois qu'il passe sur un plateau de télévision, et je vous ai dit que c'était fréquent. Quel homme bien ! Quel homme bien ! Depuis 1992, Monsieur le Président, je l'ai entendu sangloter sur le plateau de Claire Chazal ou de PPDA ou des présentateurs de France 2. Je l'ai entendu demander pardon pour les enfants morts du sida quand il était ministre de la Santé à la suite de transfusions sanguines. Je l'ai entendu engueuler les journalistes, je l'ai entendu m'engueuler moi, parce que je ne faisais rien pour la Somalie, parce que je ne faisais rien pour la Bosnie, parce que je ne faisais rien pour la Tchétchénie. Je l'ai entendu demander pardon pour les victimes de l'amiante. Je l'ai entendu m'engueuler parce que je ne faisais rien pour les victimes de l'amiante. Je l'ai entendu demander pardon, engueuler, je ne sais plus, les journalistes parce qu'ils ne faisaient rien pour la Bosnie. Mais qu'est-ce qui m'a engueulé ? Qu'est-ce qui m'a engueulé ? Et à chaque fois, qu'est-ce que je me suis senti minable ? Alors, évidemment, Monsieur le Président, Bernard Kouchner ne m'engueulait pas directement. C'est-à-dire que c'était un peu plus compliqué, il m'englobait dans un « nous ». Puisque quand Bernard Kouchner venait sur un plateau de télévision, là je parle d'avant 2007, hein, on viendra ensuite, Monsieur le Président, à la période d'après 2007. Quand Bernard Kouchner venait sur un plateau de télévision, il ne disait pas « vous êtes des minables ». On ne parle pas comme ça à la télévision, il disait « nous sommes des minables, nous ne faisons rien ». Il y avait une phrase typique kouchnerienne qui me frappait à chaque fois beaucoup, c'était « et dire que pendant ce temps-là, nous ne faisons rien ». Vous voyez ? Donc il se mettait dans le coup. Il était dans le truc. Nous sommes là, fêter Noël, nous réveillonnons dans nos foyers, nous faisons des courses, nous achetons. Alors, comme lui, il revenait de l'enfer, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il arrivait sur le plateau de Claire Chazal à cette époque-là, ça pouvait être le dimanche soir, c'était le 1er janvier, les jours de fête, il arrivait toujours, si vous voulez, en provenance directe de Roissy. Il tombait de l'avion, il avait pris le Car Air France, qu'il l'avait déposé à la porte Maillot, vous savez, là, sous les affiches géantes de Charles Aznavour. Et donc, moi, je comprenais bien, Monsieur le Président, que quand il disait « nous ne faisons rien », ne parlons pas de lui, puisque lui, il en arrivait. Et à quel prix ? Donc, je comprenais bien que le salaud qui était accusé de ne rien faire pour la Somalie, la Bosnie, etc., les enfants machin bidule, c'était moi. Et, Monsieur le Président, quelle honte à chaque fois je ressentais. Quelle honte était la mienne. Pendant que Kouchner portait des sacs de riz aux enfants africains, le dimanche, les jours fériés, nous, on était là. Nous, on prenait le métro avec insouciance. On se promenait main dans la main, en amoureux, au Lidl, parfois même au Franprix, Monsieur le Président. Avec des caddies regorgeant de riz, de pâtes, de thon naturel. Au pire, on pointait dans nos confortables ANPE surchauffés, à plantes vertes. Certains touchaient de plantureux RMI. La vie était belle. On ne foutait rien. C'était dégueulasse et Kouchner avait bien raison de nous rappeler à notre égoïsme. Ça, c'était la période d'avant. Et puis, tout d'un coup, tout a changé depuis mai 2007. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Il y a un épisode qui a dû m'échapper. Il ne l'a sûrement pas voulu. Il ne peut pas l'avoir voulu, puisque lui, il avait soutenu, je crois, une candidate opposée au président qui a finalement été élu. Donc il a dû se passer un truc qui nous a un tout petit peu... échappé. En tout cas, ce qui est vrai, monsieur le président, et je tiens à le dire, parce que là, je vous parle en tant que téléspectateur régulier, Bernard Kouchner est resté honnête. Il n'a pas renié ses convictions. Et c'est vrai d'abord parce que c'est son nouveau chef de droite qui l'a dit à plusieurs reprises en parlant de Kouchner et de quelques autres. Il a dit « Je ne demande à personne de renier ses convictions. » Voilà. Là, je pense qu'on est, on est obligé de le croire. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, attention, Kouchner est ministre, il va dans plein de réunions inutiles avec des gens en gris qui peuvent rien, mais il est toujours contre les bombes, contre les dictateurs et contre les enfants qui meurent de faim. Hein. Il est contre, mais à fond contre. Il n'a rien renié. Et alors là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui a changé quand il passe le matin à la radio ou le soir à la télé, c'est qu'il ne nous engueule plus, ou moins. En général, d'ailleurs, c'est même lui qui se fait engueuler un peu. J'ai remarqué ça. Il se fait engueuler. Il se faisait pas engueuler avant. C'est du genre... alors, comme ça, vous êtes couché devant Poutine sur la Géorgie. Alors, comme ça, Sarkozy va rencontrer le Dalai Lama dans un trou en Pologne. Et puis, pour le Darfour, vous avez fait quoi exactement? Enfin, quand je dis engueuler, c'est plutôt taquiner. Il se fait taquiner. Les journalistes qu'ils reçoivent ne sont pas méchants avec lui. Alors d'abord, peut-être ils se souviennent bien comment il a passé des années sous les bombes, pendant que tout le monde se gobergeait avec les RMI et dans les ANPE à Plante Verte, là. Puis les journalistes lisent le journal du dimanche et le baromètre des Français qui sont super populaires. Donc ils savent bien que Kouchner est populaire et en général, ils hésitent à être méchants avec quelqu'un qui est trop populaire. Mais ils sont taquins. Ils sont taquins. Ils peuvent pas s'empêcher. Puis ils veulent montrer qu'ils sont indépendants. Alors lui, monsieur le Président, il s'énerve. Parce que lui, au fond de lui, il sait qu'il est toujours le même. Contre les bombes, contre les enfants qui meurent de faim avec des mouches autour, contre les dictateurs, contre le Dalai Lama, pour le Dalai Lama, excusez-moi. À fond, mais à fond, à fond. Et d'ailleurs, Michel Drucker l'a confirmé, hein. Alors, monsieur le Président, je dois dire que je pensais que vous feriez régner un minimum d'ordre dans cette salle. Je constate qu'on y rit quand je prononce le nom de Michel Drucker.
Mais qu'on fasse évacuer.
Ah non, mais que vous les rappeliez à l'ordre. On ne rit pas quand on prononce le nom de Michel Drucker, monsieur le Président. Donc, Drucker à Kouchner, confirmé, vous n'avez pas mis un mouchoir sur vos indignations, a dit Drucker donc à Kouchner, Nicolas Sarkozy ne vous a pas demandé de changer d'opinion, Kouchner a confirmé, non. Voilà, je m'empresse d'informer la salle que ceux qui n'auraient pas vu l'extrait peuvent venir le voir sur arrêtsurimage.net, 30 euros par an l'abonnement. 12 pour les chômeurs, les précaires et les étudiants. Donc, libre dans sa tête. Libre dans sa tête. L'autre jour, l'autre matin, donc je l'écoutais sur France Inter, demeurant la sécurité sur les Chinois. Les Chinois, le Dalai Lama, tout ça. Il a dit, on peut pas faire des droits de l'homme tout le temps. Il a dit. Non mais... Mais c'est vrai. Alors, c'est vrai que l'émission était un peu compliquée. Il était en train, si j'ai bien compris l'opération à laquelle il se livrait, c'était pas une vraie rencontre, c'était une espèce de fausse rencontre. Je pense qu'on avait dû le briefer et lui dire, les Chinois, écoute Nicolas de Morand le matin, donc si t'as un message. À leur faire passer, c'est le moment.
Monsieur Schneiderman, on vous remercie. Alors voilà le moment du réquisitoire. La parole est enfin à la Défense.
Monsieur le Président, Kouchner dit qu'il est né au Biafra.
Ce n'est pas Maître Jacques Vergès.
Il est né dans une conversation dans un bistrot parisien dont le journal des étudiants communistes à l'époque, Clarté, rendait compte. Et dans cette conversation de bistrot, il disait « Je serai le nouveau Rastignac ». j'arriverai par la contestation. Ici, nous voyons tout de suite la faiblesse du personnage. Rastignac, quand il se révèle, c'est au Père Lachaise, dans un cadre dramatique, à propos de l'enterrement du Père Goriot. Et il ne s'adresse pas à des petits copains en train de boire de la limonade, il s'adresse à Paris, à nous deux désormais. Ici, nous avons un pauvre air qui dit « Je serai Rastignac ». Karl Marx, que Kouchner fréquentait à l'époque, avait bien dit « L'histoire ne se répète pas, elle bégaye ». Et vous n'allez pas condamner un type pour un bégaiement. Kouchner est un bégaiement de l'histoire. Bon. Deuxièmement, Rastignac toujours. Rastignac épouse, pour arriver, la fille Nunzingen. Il épouse la banque. Et une banque qui s'est enrichie du sang de la vieille garde à Waterloo. Kouchner, lui, épouse une journaliste qui s'est fait remarquer en insultant un condamné à mort dans sa cellule. Il s'agit du premier ministre du Shah Obeida. Il y a là un manque de goût, évident. Vous n'avez pas condamné un mec pour un manque de goût. Bon. Troisièmement, on lui reproche sa photo avec ce sac de riz sur le dos. Mais nous vivons à l'époque de l'image. Ce qu'il apporte aux gens, c'est pas tellement le riz, c'est pas important, c'est l'image. Et il leur apporte l'image. On lui reproche de ne pas dénoncer le travail forcé. C'est vrai. Mais il l'a nié. C'est déjà un petit pas vers le travail forcé. Et en plus, il a réussi à se faire payer pour ça. Chapeau. Et puis enfin, quand le président Kadhafi, le colonel, vient à Paris, en visite d'État, lui qui est ministre des Affaires étrangères, il l'évite. Vous n'allez pas condamner un courant d'air, quand même. Alors, qu'est-ce qui reste? À propos du Kosovo, dont il a été le gouverneur, il a parlé de milliers de victimes. Et le tribunal pénal international l'a contredit. En disant, il n'y a pas des milliers de victimes, il y a une centaine. Il a menti. Mais vous n'allez pas condamner pour ce mensonge, c'est un mensonge qu'il a fait pour la bonne cause. Et puis on a dit, il a retourné sa veste. Mais enfin, si vous allez condamner un mec parce qu'il a retourné sa veste, vous allez commettre un véritable génocide. Il y aura une Shoah dans le monde médiatique et dans le monde politique. Alors, soyez raisonnable. Enfin, vous lui avez parlé du fric. Mais comme je vous l'ai dit, cet homme a faim. Sa femme touche plus que lui. Il a un réflexe de mal, enfin. Surtout qu'il avait écrit dans cet article de Clarté, « J'explique l'histoire du monde par l'hormone mâle. Bon. » Et donc, nous arrivons maintenant aux choses essentielles que vous avez eues, monsieur le procureur, le bon goût d'évoquer. Mais en tirant des conclusions qui ne sont pas les miennes. Moi, je suis la défense. Nous vivons aujourd'hui une époque extraordinaire. C'est l'époque des droits de l'homme. Il n'y a plus de valeur du tout. Il n'y a que les droits de l'homme. Et qu'est-ce que je lis? Les droits de l'homme sont, pour Robert Ballinter, l'horizon moral de notre temps. Pour Kofi Annan, le fondement de toutes les sociétés. Pour Jean Daniel, le germe d'un véritable gouvernement mondial. Et pour Elie Wiesel, la religion séculaire mondiale. C'est formidable. Mais seulement, c'est notre nouvelle religion. Mais vous savez très bien que lorsque les croyants sont, non pas intolérants, mais ont la volonté de prosélytisme, il faut que nous étendions cette vision des droits de l'homme à l'univers entier. Avec le concept des droits de l'homme, nous pénétrons au cœur des autres cultures pour les obliger à penser comme nous. Parce que les hommes sont égaux, mais pas les cultures. Alors, à charge pour les droits de l'homme d'abolir les défenses immunitaires des peuples chez qui on les exporte. C'est un peu comme la petite vérole que les conquistadores portaient chez les Indiens. Et là-dessus, Kouchner approuve. Mais il a raison. La déclaration des droits de l'homme, c'est pas seulement une déclaration de paix et d'espoir, c'est une déclaration de guerre pour ceux qui ne croient pas comme nous. Est-ce qu'on a le droit de ne pas croire comme nous? Enfin, je vous pose la question. Mais c'est inadmissible. Bon, surtout quand on voit les droits de l'homme et la démocratie, ce que ça donne chez nous. Lisez les journaux ce soir, écoutez la radio cette nuit, vous verrez ce que c'est, ce que ça donne. Bon. Donc, il est pour l'intervention, mais il a raison. Et pour l'intervention en Irak, il dit, bon, on a menti, mais tant pis. N'oubliez pas qu'il a été stalinien. Il lui restait une petite vague comme ça, hein, une petite trace. Hein, la fin justifie les moyens. On a menti Colin Powell a montré un bocal de pipi devant l'Assemblée de l'ONU en disant « C'est une arme de destruction massive ». Et tout le monde dit « Oh, bon ». Alors lui, il vous dit « On a menti, mais on a amené les droits de l'homme en Irak ». Et comment pouvez-vous nier qu'on n'ait pas amené les droits de l'homme en Irak ? Regardez les photos de Guantanamo, les photos d'Abu Ghraib, les manifestations, les kamikazes, les viols, etc. Mais c'est fantastique ce qu'on a fait. Bon. Et le devoir d'ingérence justifie désormais les guerres préventives contre les États hostiles à la démocratie. La Providence a fait que ceux qui ont découvert les droits de l'homme, c'est nous qui sommes les plus forts. Alors, écoutez, utilisons notre force. Seulement, nous avons le droit de faire la guerre pour amener ces gens-là à penser comme nous, à vivre comme nous. Mais la guerre n'est plus la guerre du temps de Clausewitz, la guerre des Lumières, où il faut empêcher la guerre d'aller aux extrêmes, jusqu'à la destruction de l'ennemi. Aujourd'hui, c'est la guerre absolue inventée par les nazis. C'est la guerre contre les civils. Il faut tuer le plus possible de civils, et comme ça, les gouvernements vont capituler. C'est ce qu'on fait en Irak. Et vous avez l'exemple dans l'histoire. Guernica, 5000 morts chez les Rouges, zéro chez les Blancs. Rotterdam, 35 000 morts, le gouvernement capitule le lendemain. C'est pas positif, ça ? Mais alors, nous, on a fait mieux. C'est Dresde, 100 000 morts. Mais là, c'est des bandits, ça les a excités encore plus. Alors, on a fait mieux, on a fait Hiroshima et on a fait Nagasaki. Mais aujourd'hui, si vous réfléchissez à l'histoire du monde, les Hollandais ont capitulé, parce que c'est des démocrates. Mais les Boches, les nazis n'ont pas capitulé après Dresden. Au contraire, ça les a excités. Et alors, contre les peuples du tiers-monde, qu'on doit classer parmi les totalitaires aussi, hein, entre nous, il faut utiliser des armes beaucoup plus précises, et les armes chimiques. C'est les bombardements chimiques. En haut Vietnam, on a utilisé le produit orange, et non seulement on a tué des types, mais c'est beaucoup mieux. On a tué des générations à venir. Les enfants naissent là-bas avec des bras qui manquent, un œil au milieu du front comme des cyclopes. Et donc c'est formidable, ça résout le problème de la surpopulation. Et Kouchner est partisan de tout ça. Et vous allez lui reprocher ? Mais c'est un voyant, c'est un prophète. Maintenant, vous allez lui reprocher les Abu Ghraib et... Non, il n'y a pas participé directement. Parce que Kouchner ne fait pas la guerre... Personnellement, il fait la guerre par des paroles. Par exemple, dans ce fameux numéro de Clarté, qui est la naissance de cet homme, il dit, j'aurais bien voulu aider Fidel Castro, mais il ne m'a pas appelé. J'aurais bien voulu combattre l'OAS, mais on ne m'a pas appelé. C'est un monsieur qui ignore ce qu'on appelle le devancement d'appel. Si, pour rejoindre De Gaulle, on avait attendu tous que De Gaulle donne un coup de téléphone, je crois qu'il aurait ressemblé à Soubise à la fin de sa vie, il aurait eu trois pelés et un tendu derrière lui. Alors, il n'y a rien contre lui. Il a voulu faire de grandes choses, il n'a pas fait. Il n'a pas eu la compétence de son ambition. Et Chateaubriand écrivait, l'ambition dont on n'a pas la compétence est un crime. Mais attention, vicomte, n'exagérez pas. Vous n'allez pas condamner un mec à de la prison pour... médiocrité. C'est un médiocre que je défends. Quand on m'a demandé de le défendre, je croyais défendre un indéfendable, un monstre. Et puis je m'aperçois que c'est un médiocre. Et pour défendre un médiocre, la manière la plus efficace, c'est de montrer sa médiocrité. Je crois vous l'avoir démontré. Alors que faire de lui maintenant ? Eh bien, je propose, la prison c'est exagéré, qu'on lui impose un travail d'intérêt général. Écrire sur un morceau de papier 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois, je suis un raté. Et voilà. Et d'ailleurs, dans cette fameuse conversation, dans le bistrot, il disait « Serons-nous des ratés ?» Mais oui, mon vieux, t'es un raté.
Merci.
Messieurs, j'en ai terminé.
Merci.
Et vous vous souvenez sans doute du verdict qui condamnait... Bernard Kouchner à vivre définitivement avec Christine Ockrent et à exercer son métier de médecin quelque part à la campagne. Merci à tous. C'était une émission préparée par Antoine Chao. Merci à Frédéric Pagès, Jean Bricmont, François Ruffin, Daniel Schneiderman, Jacques Vergès et toute l'équipe de Bakchich Info. Les vidéos du procès en réhabilitation de Bernard Kouchner sont visibles sur le site, des extraits au moins de Bakchich Info. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, ainsi que sur là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Florent Layani, c'est Koye Nguyen et Raphaël Moutarde qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry. Et Agnès Lebot attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Lundi à 15h, là-bas si j'y suis, on part pour une série spéciale de reportages dans le lobby pro-israélien aux États-Unis. Voyage autour d'un tabou. Réclame.